Métaphysique à Frigo, le 3 mai 83, deuxième cours.
Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport au cours précédent et aux autres cours? Est-ce que quelqu'un a une intuition géniale pour voir comment on pouvait poser le point de vue d'une philosophie particulière par rapport à l'homme, par rapport à la personne humaine, hein, parce que c'était le problème qui s'était posé. J'avais refait avec vous un peu toute enquête pour essayer de comprendre, y a-t-il vraiment une branche de la philosophie particulière qui s'épanouit par rapport à la personne. Je crois que c'est très important de se poser au moins la question. Il faut au moins se poser la question. Et l'intérêt, c'est de se poser la question. La solution, elle est pas commune, de voir exactement. Alors, je crois qu'il faut au moins se poser la question et de dire, après avoir découvert l'ousia, après avoir découvert l'acte, après avoir découvert la propriété l'un, du métaphysique. La métaphysique, c'est, évidemment, je vous ai dit que la métaphysique se faisait par rapport à l'homme. Bien sûr. Il vaut mieux faire la métaphysique à partir de l'homme, l'expérience que j'ai de moi-même, que à partir de la vache. C'est plus difficile de faire une métaphysique à partir de la vache. Tandis qu'à partir de l'homme, ça va mieux. Et on doit se poser la question à partir de l'homme. C'est très important. Parce que c'est à partir de l'homme que je découvre vraiment l'ousia. Que je découvre vraiment le point de vue. Que je découvre vraiment le point de vue de l'acte. Que je découvre les diverses modalités de l'acte. Parce que par rapport à la vache, ce serait difficile de découvrir la modalité du bien et la modalité du vrai. N'est-ce pas ? Ce serait plus difficile. Donc, je vois bien que les cinq modalités de l'acte sont proprement à partir de l'homme. C'est les cinq manières pour l'homme d'être en acte. Nous avons cinq manières d'être en acte. Et nous avons cinq manières d'être en puissance. Cinq potentialités et cinq manières d'être en acte. Hein. Je vous résume, vous vous rappelez, on reprend ça, c'est important, le point de vue de l'essai, l'acte d'être, le point de vue du bien, le point de vue du vrai, les opérations vitales et le mouvement. Cinq modalités. Ça, c'est vrai par rapport à l'homme. Il montre bien qu'au fond, je fais la métaphysique, il ne faut pas l'oublier, je fais la métaphysique par rapport à l'homme. Comme la philosophie du vivant est par rapport à l'homme, la métaphysique est par rapport à l'homme. On devrait peut-être y dire plus. Alors, c'est par rapport à l'homme, c'est par rapport à toutes les autres réalités, mais c'est par rapport à l'homme. Au fond, c'est la métaphysique de l'homme. C'est important parce que ça va nous aider à solutionner le problème. Vous voyez, c'est la métaphysique de l'homme. Et c'est vrai, parce que dès que je regarde les cinq modalités, je vous ai dit que les modalités du bien et de l'être, c'est par rapport à l'esprit. Donc c'est bien l'homme. Parce que si vous regardez la vache métaphysiquement, c'est difficile de découvrir du bien et vrai. Pas comment. Vous pouvez découvrir parce que la vache est vraie, et c'est l'homme qui. Donc c'est en réalité, vraiment, le point de vue de la métaphysique de l'esprit, qui est lié au bien et qui est au vrai et qui cherche. C'est très vrai que la vache est vraie ontologiquement. Mais c'est par rapport à l'homme que je le situe. Bon. Je vois ces cinq modalités, puis je découvre l'un et le multiple comme les propriétés de l'être. Puis je découvre en dernier lieu, ce que nous avions vu la dernière fois, nous avions vu le problème de la personne. Ça, vous avez vu la dernière fois. Et je vous avais dit que le problème de la personne, c'est le problème du pot. c'est le comment de l'usia, c'est le comment de notre âme, selon ces trois modalités, c'est selon les cinq modalités, c'est les trois plus les deux autres, puis le problème de l'individu. Je crois que vous l'avez revu entièrement, le problème de la substance. Non, où est-ce qu'on était arrivé? Je me demandais tout à l'heure avant le cours, tu avais des références qui n'allaient pas, donc je pouvais pas.
Donc, vous avez
repris
la démarche philosophique
de la substance et de la... Substance et de la... Alors, je continue maintenant, et puis nous reprendrons notre problème de tout à l'heure, vous voyez, au terme. Parce que si on n'a pas vu ça, c'est difficile de répondre tout de suite. Hein. Et c'est pas plus mal d'avoir repris le problème comme tout à l'heure, pour vous alerter. Donc, pour essayer de comprendre que le problème de la personne, c'est-à-dire le problème de l'homme existant. Si c'est le problème de la personne, c'est le problème de l'homme existant. Ce n'est pas la personnalité. C'est le problème de la personne humaine. Donc c'est l'homme pris concrètement. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le problème du pose. Parce que ce problème du pose, c'est le problème de la manière d'exister. La manière d'exister. La personne humaine existe de telle manière. C'est qu'en elle, la substance donne son autonomie, l'autonomie dans l'ordre de l'être. C'est vrai qu'il y a comme axe premier de la personne, ce point de vue, de sa, son autonomie dans l'être. Ça, je peux le dire directement par rapport à la substance. Si on saisit ce que c'est que la substance comme principe selon la forme de ce qui est, toujours se rappeler ça, hein. L'usia, la substance, ce n'est pas le sujet au point de vue métaphysique. Hein. C'est l'arché, c'est-à-dire le principe. C'est l'arché, c'est le principe. Donc si l'usia, c'est l'arché, elle est cause selon la forme de ce qui est. Donc il faut le savoir. Il hein. faut savoir qu'est-ce que c'est que la substance. C'est la cause selon la forme de ce qui est. C'est-à-dire, selon la forme, comprenez bien, je ne dis pas la cause formelle. La scolastique dira ça. J'aime pas beaucoup. Parce que cause formelle risque de nous faire croire que la distinction matière et forme est au niveau de l'être. Or, la distinction de la, matière et de la forme n'est pas au niveau de l'être. Elle est saisie au niveau du devenir. Donc si elle est saisie au niveau de devenir, je peux la transposer. Parce que c'est très vrai, les premières réalités que je connais, c'est les réalités qui sont dans le devenir. Les premières réalités, c'est ça que je connais en premier lieu. Alors, c'est pour ça que je dis cause selon la forme. Tout simplement pour me faire comprendre qu'il y a un pli dans l'intelligence. Et ce pli dans l'intelligence, c'est la distinction matière et forme. Je ne peux pas m'enlever ce pli. Je l'ai tout de suite. Dès que j'étudie une œuvre d'art, je fais tout de suite matière et forme. Et tout le monde est obligé de reconnaître que le cercle peut être un cercle de bois ou un cercle d'airain. Il ne faut pas être très intelligent pour pouvoir dire ça. Donc la distinction matière et forme, personne ne peut la rejeter. C'est pour ça qu'on est tout à fait fier en disant, même les sciences modernes, il suffit de comprendre la distinction matière et la forme, elle est, je dirais, contemporaine à toute notre vie intellectuelle. Contemporaine, je ne peux pas la nier. Autrement, vous serez obligé de nier que le cercle des reins, c'est le cercle de pierre. Ou que le cercle de... Il y a un cercle des reins, un cercle de pierre, un cercle que j'écris. C'est toujours le cercle, la forme. La matière, les reins. Donc, matière et forme, c'est une distinction, j'allais dire, classique au sens le plus fort du mot. Et vous voyez que cette distinction matière et forme relève d'abord de l'œuvre d'art, puis de la physique, puis je la transpose en métaphysique. En disant qu'entre deux, je passe par le vivant. Et je la transpose. Et que j'ai dit cause, donc c'est bien marqué, c'est le principe, selon la forme, pour bien montrer l'orientation de cette cause, elle est dans la ligne de la détermination et de la forme, mais elle est au niveau de ce qui est. Donc elle n'est plus au niveau du devenir. La distinction matière et forme est adéquate au niveau du devenir. La distinction matière et forme n'est plus adéquate au niveau de l'être. Ça, il faut. Si vous avez uniquement saisi ça en faisant le cours de métaphysique, c'est déjà bien. Si vous avez saisi ça, c'est déjà beaucoup. Parce que vous évitez des tas d'erreurs une fois que vous avez saisi ça. Même Gibson n'a pas saisi. Parce que c'est quand même important de saisir. Gibson n'est pas un imbécile. Alors c'est quand même important de saisir que cette distinction de la matière et de la forme est une distinction adéquate pour l'œuvre d'art, pour toute réalité qui sont dans le devenir. Elle est d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière, adéquate pour le vivant. Mais elle n'est plus adéquate pour l'être. Elle n'est plus adéquate pour l'être. Pourquoi ? Elle n'est plus adéquate pour l'être. Donc, la distinction matière et forme n'étant plus adéquate pour l'être, elle ne me permet pas de saisir ce que c'est que l'être. La scolastique l'a appliqué. C'est une des erreurs de la scolastique. Sans doute à cause de ça qu'elle est tombée dans la décadence. Parce que c'est très dangereux d'appliquer une application, de prendre une division, une distinction, de l'appliquer dans un domaine où elle ne porte pas. Alors, je pose la question, je voudrais que les anciens, les vétérans de la métaphysique, hein, puissent arriver à dire ça. Pourquoi la distinction de matière et de forme n'est pas adéquate à l'être ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Elle se prend de l'être mu ?
Oui, mais pourquoi ?
Je
suis tout à fait d'accord, vous me donnez une réponse par l'origine. Ce n'est pas suffisant. Je voudrais la réponse par le point de vue direct de la division de la matière et de la forme. Pourquoi la distinction de la matière et de la forme n'est pas adéquate à l'être ?
La matière n'est pas le principe de l'être.
Ah, c'est ça. C'est parce que la matière n'est pas principe. Oui, elle ne peut être qu'accident. Tandis que la matière peut être principe, co-principe du devenir. Elle est co-principe. Je ne peux pas dire que la matière est co-principe de l'être. Non, elle n'est pas co-principe de l'être. Elle est accidentelle par rapport à l'être. Ce qui est capital de comprendre ça. Elle est accidentelle. C'est accidentel pour l'être d'être un être matériel. Vous voyez, c'est la seule manière de répondre au marxisme. Si vous avez compris ça, vous pouvez le marxisme. C'est impossible. Impossible. Pourquoi vous avez compris ça ? Tant que vous n'avez pas compris ça, vous pouvez l'être. Ah oui, ça parle. Tandis que si vous avez comme ça, impossible. Vous serez obligé de vous renier vous-même. Et ça montre que le marxisme n'a rien saisi à la métaphysique. Il reste une philosophie du devenir. Une philosophie du devenir. Oui, alors, il faut bien comprendre que la distinction. Il y a deux points de vue. Premier point de vue, l'origine. La distinction de la matière et de la forme est prise du devenir, tout à fait vrai. Et ça, c'est l'explication par le devenir. Hein. L'explication par le devenir ne suffit pas. Il faut l'explication directement par la structure de la distinction de la matière et de la forme. Or, si la matière avait comme principe propre, je veux dire, si l'être avait comme principe propre la matière, si la matière était constitutive de l'être, ça va très loin, ce exemple. Si la matière était constitutive de l'être, je devrais dire que la distinction de la matière et de la forme joue en métaphysique. Mais la matière n'est pas constitutive de l'être. Elle est constitutive de tel être, un être en devenir. C'est extraordinaire. Quand j'allais dire, alors pourquoi la résurrection des corps ? Oui, c'était tout de suite l'objection de soulever. Hein. Je ne sais pas moi si je dis de l'être. Ah oui, c'est attention, la personne. C'est ça le problème qui va se poser. C'est C'est ça le petit problème qui va se poser. La matière est constitutive de ma personne. Elle n'est pas constitutive de l'être. On ne peut pas dire que la matière, c'est tout à fait le cimetière. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Votre corps est uni substantiellement à votre âme. C'est pour ça qu'il y a la résolution du corps. La résolution du corps n'est pas au niveau métaphysique de l'être. Non, 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 non. Elle est au niveau de l'âme et de l'individu de la personne qui est un être et un individu. C'est ça qu'il faut faire attention à la distinction. Personne et individu, c'est très vrai, je peux faire la distinction, mais il faut faire attention. C'est que l'individu est assumé par la personne. Et l'individu est essentiellement personne dans la personne humaine. Oui. Ce que je pourrais dire, la matière est présente dans l'individu et est absente de la personne. Hein. Vous voyez ? Vous pourrez dire ça en disant la personne, c'est l'esprit. Donc au fond, soyons des êtres spirituels de plus en plus séparés de la matière. Et c'est cela qu'engendre en moi l'esprit métaphysique. Vous voyez, ça irait bien. À ce moment-là, je serais très loin du réel et je serais quelqu'un qui planerait en disant c'est ça la métaphysique. Pas du tout. L'individu est présent. Très très important. L'individu implique le corps, implique la matière, essentiellement. Et donc, pour la personne, la matière est essentielle. Alors, je reprends de ma cause selon la forme de ce qui est. Voilà ce que c'est que la substance. Voilà ce que c'est que la cause, la substance, c'est vraiment cause selon la forme de ce qui est. C'est pour ça que cette division, alors je vais tout de suite, l'autre aspect, c'est pour ça que quand je découvre la substance, je la divise, non pas de la matière, mais de la qualité. La qualité est plus proche, comprenez bien, la qualité est plus proche de l'ousia et de l'être que la matière. La qualité fait partie non pas de la structure substantielle, mais elle fait partie de l'être. Tout être implique une qualité. Dieu est un être qualitatif. Transposer la qualité en Dieu. Je dis que cette qualité substantielle, elle n'est pas accidentelle. Oui, mais elle est qualité. Alors je distingue la substance de l'accident. Je dis, et l'accident, premier accident de qualité. C'est vrai, métaphysiquement, premier accident, c'est la qualité. C'est l'accident premier, c'est la qualité qui manifeste l'être. C'est très important. Bon, alors, après, je dis donc, la personne implique le point de vue de l'ousia. Je ne peux pas comprendre la personne humaine sans l'ousia. Ça, c'est très important, hein, parce que ça vous fait comprendre que la psychologie ne pourra jamais dire le dernier mot sur la personne. Parce que la psychologie ne peut pas me faire comprendre la véritable autonomie. La psychologie me fait comprendre qu'un sentiment d'autonomie. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne dis pas quoi. Tandis que la métaphysique vous fait comprendre que l'autonomie est sans racine dans l'être. Et c'est vrai, l'autonomie est sans racine dans l'être. Il est sans racine dans l'ousia. C'est par l'ousia que je suis autonome. C'est l'ousia qui met en moi une détermination fondamentale par laquelle je suis autonome. Je suis, il y a quelque chose d'absolu en moi dans l'ordre de l'être. Et ce quelque chose d'absolu en moi dans l'ordre de l'être, c'est l'ousia. C'est ce quelque chose d'absolu. Ce quelque chose d'absolu est présent dans la personne. La personne est un absolu dans l'ordre de l'être. Pas oublier ça. C'est pour ça que ça peut être un bien qui me dit. Ça ne pourrait pas être fin s'il n'y avait pas l'absolu dans l'être. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très très important de bien comprendre que le premier. Dès que j'essaie de saisir, qu'est-ce que c'est que la personne humaine, Je dis la personne même, elle est substance. Au sens où par là, je découvre le point de vue profond, le point de vue de l'autonomie. L'autonomie dans l'ordre de l'être. Donc je réponds à ce que le psychologue vous dit, sentiment du moi, sentiment d'autonomie. Très bien. Et je dis que cette substance, elle est individualisée. Elle est individualisée en sens qu'elle assume, elle implique un corps qui est quantifié, qui fait que je suis distinct des autres. La personne humaine implique donc une substance individualisée. Cette substance, c'est, alors c'est là le problème, hein, c'est mon âme. J'y reviendrai. Cette substance, c'est mon âme. Je le dis tout de suite, parce que ce vivant, cette substance, c'est mon âme. Et c'est mon âme qui informe le corps, qui actue le corps, et qui donne au corps toute sa signification. Le corps gagne une signification que par rapport à l'âme. On a la première dimension de la personne humaine. Deuxième dimension de la personne humaine. C'est que cette substance qui subsiste en elle-même, qui existe par elle-même, cette substance, parce qu'elle est spirituelle, à cause de l'esprit, est capable de choisir son bien et sa fin. La personne humaine implique l'esprit. Parce que cette âme qui subsiste en moi, elle est spirituelle. Donc, cette âme implique, cet esprit implique une recherche vers le bien, vers la fin. Autrement dit, il y a en moi une capacité d'aimer. L'amour spirituel présent. Mais l'amour spirituel est constitutif de la personne. Une personne qui n'aime pas ou qui serait incapable d'aimer serait une personne atrophiée. Elle ne pourrait pas se développer comme normalement elle devrait se développer. Elle aurait son autonomie, mais elle n'aurait pas cette possibilité de s'épanouir dans le sens où elle doit s'épanouir comme esprit. Ici, en disant ça, je comprends comment le sentiment de valorisation dont parlent les psychologues s'enracine dans l'exigence d'être finalisé. Une personne humaine qui n'est pas finalisée n'est pas pleinement personne humaine. On va dire pourquoi. Précisément parce qu'elle existe. Et que l'être demande d'être l'être en marche. Et que dans l'être en marche, il y a ces diverses modalités. Il y a le bien. Il faut donc que la personne humaine atteigne le bien. Et elle ne peut l'atteindre le bien qu'en l'aimant. Elle ne peut pas l'atteindre autrement. Le bien, on le touche en l'aimant. Dans l'aimant, je touche. Dans l'aimant que je suis lié à ma fin, que je suis lié à mon bien. Or, je ne suis parfaitement moi-même. Un esprit est parfaitement lui-même que lorsqu'il atteint le point de vue du bien. Vous voyez que là, j'assume nécessairement tout le problème de l'éthique. Mais ce n'est pas le problème de l'éthique que je regarde, c'est quelque chose de plus, c'est le lien de l'esprit à l'égard du bien. Vous voyez ? Tandis qu'en éthique, je regarde uniquement le problème du bonheur. Si c'est plus ici, c'est la manière dont le bonheur structure la personne. Pas la même chose, hein. Prenons bien, ce n'est pas une redite, autrement dit. J'assume le problème éthique. Et je montre que le problème éthique, au fond, qui implique la volonté, qui implique la liberté, qui implique que la volonté soit domina actus sui, qu'elle soit maîtresse de son acte. Ceci se comprend du fait que l'esprit est tout entier ordonné au bien. C'est parce que l'esprit est tout entier ordonné au bien que la volonté est capable d'être maîtresse de son acte. C'est intéressant parce que ça montre bien le fondement de toute éthique. Le fondement de tout le vide se fait au niveau métaphysique à l'égard du bien. Il n'y a pas d'autre fondement du vide que la métaphysique du bien. Puisque ce premier amour est au-delà de l'éthique. Ce premier amour de l'esprit à l'égard du bien. Il fonde l'éthique. Donc, la personne humaine implique non seulement le point de vue de l'autonomie, mais la personne humaine implique ce lien particulier à l'égard de son bien. Alors, je précise que ce bien, c'est un bien spirituel, ça peut être une personne. C'est normal. L'esprit ne peut considérer comme son bien qu'un autre esprit. Donc, une autre personne. Tous les autres biens sensibles, matériels, ne peuvent pas être la fin de l'esprit. Troisième dimension, c'est le point de vue du vrai. L'esprit est en quête du vrai. Alors ici, un petit problème un peu différent. Est-ce que le vrai finalise l'esprit ? Vous voyez que le bien finalise l'esprit lié à la substance. C'est ça qui est très curieux. L'esprit lié à la substance, c'est-à-dire un esprit lié à la substance individuelle, l'âme spirituelle, dans la mesure où elle est dans le corps, est finalisée par le bien. Pas abstrait. Tandis qu'au contraire, l'esprit, lui, il recherche le bien, il recherche le vrai. Et le vrai, d'une certaine manière, est le bien de l'intelligence. Donc on peut dire que l'esprit, en tant qu'il implique, en tant qu'il s'épanouit par le nous, en tant qu'il est dans le nous, en tant qu'il est nous, le nous, c'est pas tout l'esprit. Le nous, c'est pas tout l'esprit, c'est juste un aspect. Alors, le nous, c'est l'intelligence finalisée par le problème de la vérité. Et donc, finalisée par le vrai. Le vrai donne à l'intelligence humaine son sens. Et je peux dire ici que cette recherche du vrai est indispensable à la permanence de mon amour. Et donc la recherche du vrai est gardienne de l'amour. Il faut bien le saisir. C'est ce mot, c'est très vrai. Le vrai, la recherche du vrai, demande d'être dépassée par un amour du bien. C'est sûr. Donc ça ne finalise pas la personne humaine. Je ne peux pas dire que le vrai finalise la personne humaine. Mais je peux dire que la recherche du vrai est gardienne de la finalité de la personne humaine. Il faut bien nuancer. Il ne faut pas vraiment mettre deux finalités. Alors il y aurait les intellectuels d'un côté, les affectifs de l'autre. Hein. Alors il y aurait la personne humaine intellectuelle. Je le finalise du côté du vrai, moi. C'est plus commode, ça va mieux, ça m'engage moins. Tandis que je laisse les autres se finaliser du côté affectif. Alors ça me semble. Moi non, je veux toucher du doigt simplement. La fine pointe de l'âme, ça recherche le vrai, et ça a l'immense avantage de se lier à personne. Parce que le vrai, vous comprenez, le vrai, on l'a dit, c'est Dieu. Et tant que je m'attache à Dieu, je ne peux pas dire que c'est un autre homme. Je ne peux pas dire que la personne que j'aime, c'est la vérité. Ah, je t'aime, tu es la vérité pour moi. De temps en temps, on dit ça, mais c'est pas vrai. Hein. Je t'aime tellement que tu es la vérité pour moi. Je peux dire, je t'aime tellement que tu es mon amour. Ça, c'est... c'est vrai. Je peux pas dire je t'aime tellement que tu es la vérité pour moi. Je peux dire ça seulement de Dieu. Moi, la force de la parole, je suis la vérité de la vie. Quand Jésus dit je suis la vérité, il y a Dieu qui veut dire ça. Je ne peux pas dire pour mon ami, je suis ta vérité. Si l'ami est intelligent, vous donnerez une gifle. Vous verrez s'il est intelligent à ce moment-là. S'il n'est pas intelligent, il est mort. Là, il vous regardera avec attention et vous verrez en disant c'est merveilleux. J'avais toujours pensé ça. Mais je n'osais pas le dire. Là, c'est faux. Donc, c'est ça qui fait comprendre justement la différence entre le vrai et le bien. Tandis que je peux dire à quelqu'un tu es mon bien. Et je peux dire à quelqu'un je suis ton bien. Alors, attention, vous ne pouvez pas le proclamer. Mais c'est vrai, c'est vrai. On peut être le bien de quelqu'un. Pas le bien dernier, mais peut-être le bien de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être la vérité. C'est très très différent. Oui. Alors, vous voyez la différence, c'est que le vrai a une ouverture universelle. L'intelligence a une ouverture universelle. C'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter à telle personne. Oui, c'est très intéressant, ça. Parce que ça montre comment l'intelligence recherchera de nouveau au-delà de la personne humaine. Je ne peux pas m'arrêter à la personne, je m'arrête à l'être. Et donc, au-delà de la personne, je découvre l'être. Tandis que la métaphysique se concrétise dans le bien de la personne, ça c'est très bien, c'est très juste. Et voilà la phase de l'amitié. Ce n'est pas le dernier bien, parce que si je découvre l'existence d'un être premier, je dirais que ce bien suprême, c'est Dieu. Mais la personne humaine est quand même un véritable bien absolu. Elle est le bien de l'autre. C'est important dans notre monde d'aujourd'hui, on tombe dans la relativité absolue, de comprendre que le seul absolu sensible que je peux saisir, c'est la personne humaine, en tant qu'elle est mon bien. Parce que justement, il y a en elle une il y a en elle quelque chose d'absolu. Tandis qu'elle n'est pas ma vérité. Donc, je vois qu'il y a là quelque chose de très particulier, puisque ce n'est plus la finalité de l'homme et de la personne humaine que je saisis, mais la finalité du nous, qui est partie. Ah, c'est une partie. Partie essentielle de nous. Une partie très importante de nous. C'est la partie essentielle qui est d'une certaine manière, partie principale, d'une certaine manière, donc d'une certaine manière, elle est tout, pas entièrement, puisqu'elle demande d'être dépassée par la vie. À la situation extraordinaire du nous et de la volonté. Là, nous voyons bien, quand je réfléchis à ce point de vue du bien et du vrai, et que j'y réfléchis par rapport à la personne humaine, je vois cette situation très très curieuse entre les deux. C'est important de saisir ça. Saisir que le nous ne me donne pas ma finalité. C'est la volonté qui me donne la finalité de ma personne. C'est par la volonté, c'est en aimant que j'atteins le bien. Ce n'est pas en le connaissant que j'atteins le bien. Je le connais, c'est déjà bien, mais je n'atteins pas pleinement et totalement. Connaître le bien, ce n'est pas suffisant. Il faut l'aimer. Et c'est en étant lié au bien, en l'aimant, qu'on se finalise. Et que la personne humaine se finalise. Et donc, il y a la recherche de l'intelligence. Vous voyez que dans le vrai, il y a du plus et du moins. Alors je pourrais dire que seule la recherche philosophique de l'être va permettre de fonder le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité psychologique que nous avons détecté avant, en regardant les grands sentiments du moi, vous vous rappelez Charles Odier, hein, les différentes manières de Odier en psychologue définit la personne. Le sentiment de valorisation, le sentiment de sécurité, le sentiment d'autonomie. Ce qui est très curieux, vous voyez, parce que Charles Odier fait ça sans métaphysique, hein, ça on peut être sûr. Donc, j'allais dire des ascensions métaphysiques. Ce qui est très intéressant, c'est que dans une perspective métaphysique, indépendamment du point de vue psychologique, je retrouve les trois grandes structures de la personnalité. C'est les trois grandes structures. L'avantage, c'est que je retrouve ces structures au niveau de l'être et non pas au niveau du sentiment. Et je les retrouve donc dans leur finalité. Structure dynamique. Je retrouve bien les trois. Je retrouve l'autonomie. Je retrouve la valorisation. Alors, l'au-delà de la valorisation, l'amour, c'est plus que la valeur. Hein. Dire que l'amour est une valeur, moi, ça me chagrine toujours. L'amour n'est pas une valeur. Hein. C'est autre chose. C'est bien plus qu'une valeur. C'est la personne qui aime. Beaucoup plus qu'une valeur. Vous voyez là, vous voyez bien c'est la différence. Hein. Et la vérité, c'est plus qu'une valeur. Aussi, c'est plus qu'une valeur, parce que c'est la fin de la vérité. C'est plus qu'une valeur. C'est pour ça que quand on réduit l'amour et la vérité à une valeur, ça ne va pas. L'amour et la vérité doivent être regardés d'un point de vue philosophique, d'un point de vue métaphysique. Alors on voit que c'est plus que l'amour. Et alors, vous voyez bien donc que le sentiment de valorisation, c'est l'amour, et le sentiment de sécurité, c'est la recherche de la vérité. Dans la mesure où vous avez atteint la vérité métaphysique, vous avez un sentiment de sécurité. Pas bourgeois. Vous avez un sentiment de sécurité. Vous êtes dans la sécurité. Votre être, ça ne veut pas dire hein, que psychologiquement, il n'y a pas encore de traces délabrées. Hein. C'est sûr, psychologiquement. La métaphysique ne nous corrige pas de toutes les failles psychologiques qui sont en nous, c'est bien évident. Dire que la métaphysique nous revient, alors à ce moment-là, j'ouvrirai un cabinet psychologique en disant je vous enseigne la métaphysique, vous n'aurez plus d'angoisse, vous n'aurez plus de culpabilité, vous n'aurez plus de problème du tout. Hein. Ce serait trop beau. Et on comprend très bien pourquoi. Que la métaphysique peut donner l'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est très très important pour le cœur. C'est très très important pour la volonté. Mais la volonté ne suit pas toujours. Elle met du temps. Il y a des gens qui peuvent voir avec une très grande netteté ce que c'est que la métaphysique, puis ils sont angoissés. Ils sont dans des sentiments de culpabilité. Et quand ils sont dans ces sentiments de culpabilité, on les ramasse à la cuillère. Hein. La métaphysique ne les met pas debout. Ce sont des sentiments de culpabilité. La métaphysique est sûrement un remède homéopathique. Alors, sûrement un remède homéopathique. C'est-à-dire, ça met du temps. Ça assainit le terrain. Ça remède homéopathique. C'est pas chimique, c'est pas l'allopathie, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment l'homéopathie qui, de petit à petit, progressivement, assainit le terrain. Je suis sûr que quelqu'un qui fait de la métaphysique, régulièrement, assainit le terrain. Et progressivement, les failles psychologiques, disparaîtront. Disparaîtront, mais pas assez directement, hein. C'est ça qui est important, pas directement, parce que c'est une forme de l'intelligence. Dans les failles psychologiques, ça peut empêcher l'intelligence, mais c'est pas directement. Il faut bien comprendre ça, parce que tout le monde dira, mais ça sert à rien la métaphysique. Ça sert à rien et ça sert à tout. Comme l'homéopathie. C'est quelque chose qui de fait, assainit le terrain. Voilà les trois grandes dimensions. J'ajoute, et c'est important, quatrièmement, l'opération vitale et le mouvement. Ah, ça, c'est pour me faire comprendre que c'est très vrai qu'il y a une autonomie en moi. C'est très vrai qu'il y a un, que je peux me valoriser par l'amour, que je peux me sécuriser par la recherche du vrai. C'est très vrai. Mais ceci se fait dans un devenir. Progressif. Petit à petit, lentement. Je dois conquérir lentement ce que représente l'individu qui est en moi, le corps. Je dois conquérir progressivement ce que représente cette dimension de croissance qui est en moi. Et je le fais progressivement. Il y a en moi l'opération vitale. On continuera cet après-midi, si vous le voulez bien. Comme d'habitude, 2h15. Post-chidoum. C'est plus dur. On essaiera de réveiller.